Très bien. Nous n'avons qu'une heure pour cette session, donc j'aimerais donc commencer. Et nous allons donc vous donner quelques informations d'ordre logistique. Nous allons lancer l'enregistrement également. La réunion est enregistrée maintenant. Très bien, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour examiner les amendements sur le contrat de registre et contrat d'accréditation des bureaux d'enregistrement afin d'inclure les obligations contractuelles relatives au processus et aux procédures de vote du protocole d'accès aux données d'enregistrement. Je m'appelle Carl Atkinson et je suis accompagné de Daniel Gordon. Nous faisons partie de l'équipe Global Accounts, qui fait partie de l'équipe de stratégie mondiale pour les domaines. Nous sommes également rejoints aujourd'hui par Rick Willem, le directeur technique de Public Information ce registre, qui représente le groupe de parties prenantes des registres GTLD, et également Owen Smigelski, qui est responsable de la conformité à Namecheap et vice-président des politiques du RRSEG. Donc Rick et Owen font tous deux partie de l'équipe de négociation de la Chambre des parties prenantes. Ceci dit, nous allons commencer. Quelques informations logistiques sur l'interprétation. Le streaming audio sera en anglais sur Zoom. Pour écouter parler en anglais pendant la session, joignez avec vous avec Zoom. Si vous souhaitez écouter en arabe, chinois, français, russe, portugais ou espagnol, ou bien si vous avez des problèmes de connexion à l'Internet, eh bien veuillez vous joindre à nous via la passerelle téléphonique du centre de conférence à Digo. Vous avez les informations à l'écran. Vous devrez également rejoindre la session Zoom pour suivre la présentation, voir les commentaires ou les questions dans le chat et utiliser l'icône pour lever la main et demander la parole. Veuillez s'il vous plaît mettre votre audio en sourdine dans Zoom pour éviter tout écho pendant la session. Très bien, pour l'ordre du jour, aujourd'hui nous allons donner quelques historiques. Nous allons ensuite parler des obligations contractuelles concernant le protocole RDAP. Nous allons parler du calendrier de la transition de ces protocoles depuis WHOIS, nous allons parler des procédures de vote, les seuils d'approbation et nous aurons le temps pour des questions-réponses. Nous nous arrêterons après chaque section si vous avez des questions pour les poser également à ce moment-là. Donc, quelques données historiques. Concernant ces amendements sur le protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine. Donc, ce n'est pas une nouvelle conversation. En fait, cela se déroule depuis au moins 2010-2011. WHOIS était un protocole depuis 1982, lorsque l'IETF a donc lancé ses protocoles de spécification RFC 3912. Mais en 2010, on a commencé dans la communauté de l'ICANN à parler d'un besoin de remplacer le protocole WHOIS. Et avec 5051, il y a eu des recommandations pour qu'il y ait plus de soutien pour l'internationalisation, pour qu'il y ait un accès plus sécurisé aux données, un accès différencié et moins d'erreurs dans les réponses avec des requêtes plus standardisées. À la suite de ces débats, en septembre 2011, SAC 051 a conseillé à la communauté de l'ICANN d'adopter un remplacement pour les protocoles WHOIS et le conseil d'administration de l'ICANN a adopté cet avis. En 2013, on a parlé pour la mise en œuvre d'un nouveau protocole, une fois que l'IETF allait produire donc une norme, mettre en vigueur donc un nouveau protocole d'accès aux données d'enregistrement des noms de domaine. En mai 2018, les spécifications temporaires ont été adoptées pour RDAP, pour le profil RDAP, et l'organisation ICANN a demandé aux registres et aux bureaux d'enregistrement, aux parties contractantes, de mettre en œuvre le RDAP en août 2019. Donc, les amendements proposés donc au contrat d'accréditation de bureaux d'enregistrement et contrat d'accréditation des registres, il y a des spécifications dans chacun des contrats pour soutenir les amendements globaux et pour lancer une négociation à ce niveau. À la suite de cela, il y a eu des négociations qui se sont tenues avec l'ICANN, avec des équipes du groupe des représentants des opérateurs de registre et du groupe des représentants des bureaux d'enregistrement. Donc, il s'agit de la chambre et de l'équipe des négociations de cette chambre. Trois concepts clés, les critères opérationnels pour fournir donc des systèmes RDDS, des services d'annuaire de données d'enregistrement solides par l'intermédiaire de RDAP et par l'intermédiaire des protocoles OIS également, et permettre à l'ICANN d'avoir accès aux groupés, aux données d'enregistrement des noms de domaine. Il s'agit du BRDA pour la recherche et l'analyse du DNS. Donc, les obligations contractuelles qui ont été proposées, que ce soit dans le contrat, les deux contrats, eh bien, il y a plusieurs points qui ont été soulevés pour ces deux types de contrats d'accréditation. Il y a un critère de conformité par rapport au profil RDAP. Il y a des définitions mises à jour pour les termes en rapport avec le RDDS. Il y a également une exigence de niveau de service SLR pour la disponibilité du RDAP pour le temps de mise à jour également. Et il y a une disposition de temporisation de certains critères pour fournir le RDDS par l'intermédiaire des protocoles OIS sur une période de 18 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Donc, ce qui a été proposé pour le contrat d'accréditation de bureau d'enregistrement, c'est une mise à jour du BRDA permettant à l'ICANN d'utiliser les données pour des recherches, des changements par rapport aux critères de rapport pour les registres dans le cadre de SAC et de la sécurité et de la stabilité de l'Internet, SAC 097, pour qu'il y ait une cohérence au niveau des requêtes RDDS. Nous avons également le critère que pour les bureaux d'enregistrement de fournir RDAP à partir de leur propre base de données pour tous les DOMS, pour les domaines sous gestion, GTLD. Alors, qu'est-ce qui va arriver à WHOIS? Eh bien, les amendements proposés changent les technologies sous-jacentes à partir des protocoles WHOIS, à partir du port 43 de WHOIS, et l'on passe donc à RDAP qui est beaucoup plus solide et avancé. Et le système WHOIS, les services WHOIS vont continuer à être fournis par les registres GTLD et par les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN en accord avec les politiques de consensus et de normalisation de l'ICANN. Les parties contractantes peuvent continuer à utiliser le WHOIS avec les obligations contractuelles suivantes. Par exemple, offrir les services d'annuaire de données WHOIS en accord avec RFC 3912, en accord avec les fonctions de l'IANA et dans le cadre des WHOIS qui sont incorrects. Les données personnelles incluses dans les données d'enregistrement doivent être biffées en accord avec les politiques de consensus et de normalisation de l'ICANN, ainsi que les politiques temporaires. On doit adhérer à des critères concernant l'échéance supplémentaire en ce qui concerne les politiques d'étiquetage et d'affichage normalisées. Et si l'on fournit moins de données par rapport au service RDAP, eh bien, il doit y avoir une clause de limitation de responsabilité qui doit être indiquée dans le système d'WHOIS, et cela doit renvoyer donc à l'outil de recherche de données d'enregistrement de l'ICANN. Les procédures d'amendement, donc, nous avons le calendrier. C'est le même processus qui avait été utilisé en 2017 pour l'amendement global au contrat d'accréditation de base, mais c'est la première fois que ce processus sera utilisé pour mettre à jour le RAA. Et c'est la première fois que nous avons un amendement à la fois pour les deux contrats par rapport au registre et au bureau d'enregistrement. Dans le cadre des procédures d'amendement, il y a eu une proposition d'amendement avec une période de commentaires publics de septembre à la mi-novembre. Et nous sommes maintenant à la deuxième phase de la procédure, la période de vote de 60 jours, qui s'ouvre donc au 19 janvier et se conclura au 20 mars 2023. Il y aura ensuite l'analyse, de l'amendement par le conseil d'administration de l'ICANN, et si cela est approuvé par le conseil d'administration, eh bien, nous aurons une période de 60 jours à la suite de ces indications de la part de l'ICANORG, et là, nous aurons la date d'entrée en vigueur des amendements. Pour tous les accords qui ne font pas partie des accords de CCDLD, nous aurons des conversations séparées avec ces opérateurs de registre pour inclure AirDAP dans les accords respectifs qui ne sont pas pris en compte ici. Donc le calendrier concernant la transition de WHOIS vers le système AirDAP, bien comme je l'ai mentionné auparavant, il y aura une période de lancement de 180 jours avant l'entrée en vigueur de l'amendement du jour 1 à 180. Eh bien, les exigences de service et les seuils d'urgence continueront à s'appliquer. Ce sera un statu quo. La situation d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'exigence de niveau de service AirDAP qui s'appliqueront durant ces 180 premiers jours. Du jour 181 à 540, eh bien, là, il n'y a plus de seuil d'urgence pour les services WHOIS et nous aurons les seuils d'urgence pour AirDAP qui vont s'appliquer. Il y aura de manière optionnelle le WHOIS à la suite de la période de temporisation et certaines obligations minimales. Et nous aurons ensuite l'application des SLR pour AirDAP et des seuils d'urgence, donc des exigences de niveau de service. Donc je vais m'arrêter un instant pour voir s'il y a des questions à ce niveau. Et pour le moment, je ne vois pas de main de levée. Je ne vois rien dans le chat non plus au niveau de questions éventuelles. Très bien, Carla Kenson au micro. Eh bien, nous allons poursuivre et je vais donner du processus de vote, des procédures de vote et donner la parole à Daniel Gordon. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais quelques problèmes d'Internet plus tôt. Donc, indiquez-moi si j'ai des problèmes au niveau de l'audio. Assurez-vous que vous m'entendez bien. Donc, nous allons parler maintenant des procédures de vote. Et nous allons commencer avec la période de vote, quand est-ce qu'elle va commencer? Nous allons avoir la prochaine diapo qui va nous l'indiquer. Eh bien, ce vote commence au 19 janvier 2023 à 17 h UTC et le vote sera ouvert pour une période de 60 jours calendaires et se conclura le 20 mars 2023 à 23 h 59 UTC. Et je sais que c'est durant ICANN 76 à Cancun. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de voter, les parties contractantes peuvent donner une période de vote plus longue si cela est nécessaire. Donc, on peut aller à plus de 60 jours, mais pour le moment, nous avons cette période de 60 jours pour le vote. Les communications en ce qui concerne le vote, nous allons travailler avec les contacts primaires des registres niveau d'enregistrement qui vont recevoir des communications en rapport avec le vote. Il y aura donc le 4 janvier, il y a déjà eu des emails qui sont partis pour informer les contacts primaires de l'ouverture de la période de vote et nous allons envoyer des rappels. Cela se fera 1 heure avant l'ouverture du vote. Nous allons également envoyer des rappels hebdomadaires au bureau d'enregistrement et aux registres qui n'ont pas encore voté et nous leur donnons le lien pour voter. Nous allons également poster des mises à jour anonymisées concernant les votes sur la page web de l'ICANN qui est dédiée. Nous aurons une communication finale avec les résultats du vote.
Et donc, un petit rappel pour les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement de se rendre sur le portail de vote et de vérifier que les informations que nous avons sur vous sont correctes pour la période de vote. Ensuite, alors, qui va nous aider à administrer le vote? Donc, il sera administré par VoteNet, qui est une partie tierce de vote, sur une plateforme qui s'appelle eBallot. VoteNet est le même fournisseur, eBallot est la même plateforme sur laquelle vous pouvez voter pour vos cotisations annuelles du bureau d'enregistrement et pour le sondage des parties contractantes. Les personnes qui voteront devront simplement répondre oui ou non aux questions. Il y aura une invitation qui sera envoyée au contact principal de l'entité opérateur de registre ou bureau d'enregistrement ou à la famille de bureau d'enregistrement. Chaque partie contractante aura une voix, conformément au contrat avec ICANORG. Alors, comment peut-on accéder à la plateforme de vote? Au début de la période de vote, eBallot enverra un email au contact principal avec une invitation qui contiendra un lien direct vers le bulletin de vote. Et ceci permettra au contact principal de voter. Donc voilà un exemple du message qui vous sera envoyé. Il sera possible d'accéder au scrutin sur un téléphone portable ou un dispositif avec différentes capacités de navigation. Une fois que vous serez rentré sur la plateforme de vote, vous serez renvoyé à une page où vous passerez en revue la notice de transparence. Vous pourrez donc accuser réception de cette notice. Vous la voyez ici en bas. Vous pourrez simplement dire que vous l'avez lue et ensuite, vous cliquerez sur Acknowledge, donc accusé de réception, et ensuite Suivante pour passer à la page suivante. Une fois que vous aurez lu la notice de transparence, vous serez renvoyé à l'écran où vous pourrez voter. Donc, vous voyez dans cet exemple à l'écran la question qui apparaîtra pour voter sur les changements proposés au contrat. Vous pourrez donc cliquer sur oui pour approuver et sur non si vous souhaitez ne pas approuver. Et ensuite, vous pourrez appuyer sur Next ou Suivante pour envoyer votre vote. Vous voyez aussi qu'il y a une section avec des consignes qui contient un résumé et des informations sur les propositions d'amendement et sur la signification réelle de votre choix, oui ou non. Pour les registres de marque, ceux qui ont un accord donc selon la spécification 13, il y aura deux points sur lesquels voter. Donc, vous voyez un exemple de ce à quoi cela ressemblera à l'écran. Donc, vous pourrez voter sur la proposition d'amendement global sur le contrat de registre de base et vous aurez également un vote sur l'amendement global de la spécification 13. Une fois que vous aurez sélectionné vos options, vous serez renvoyé à un écran Revoir et envoyer où vous verrez tout ce que vous avez sélectionné. Donc, vous verrez à la fois la notice de transparence et l'accusé de réception, la première notice que vous voyez lorsque vous entrez dans le système et vous verrez aussi les options que vous aurez sélectionnées dans le cadre de votre vote. Et donc, sur cet écran, vous allez revoir ce que vous avez choisi et ensuite vous sélectionnerez le bouton Consentement du participant. Ensuite, vous appuierez sur Submit ou Envoyer pour réellement voter, si tout va bien. Une fois que vous aurez voté, vous serez renvoyé à l'écran de confirmation du vote où vous aurez un numéro de confirmation et où vous verrez la date et l'heure à laquelle votre vote aura été reçu. Vous pourrez également voir un reçu qui contient des informations similaires. Par ailleurs, et ceci est une fonctionnalité en option, une fois que vous aurez voté, vous pourrez changer votre vote à n'importe quel moment, pendant la période de vote. Donc, pour changer votre vote, vous pourrez cliquer sur le lien qui vous sera envoyé par email par la plateforme de vote et donc vous pourrez revoter. Vous voyez donc en haut une capture d'écran avec un système sur ballot qui vous permettra de changer votre vote. Vous pourrez donc changer. Vous serez ramené à l'écran de vote avec les différentes options et vous suivrez le même processus. Donc, vous pourrez donc resélectionner et ensuite envoyer. Enfin, mais pas des moindres, nous souhaitions vous dire qu'il y a d'autres ressources dont vous pourrez disposer. Nous avons donc une page web de vote sur l'amendement global de 2023 et nous avons également un document avec les questions fréquemment posées, une foire aux questions, sur le vote, tout ce que nous anticipons. Donc, que se passe-t-il par exemple si vous ne recevez pas l'email de e-ballot vous demandant de voter? Donc, tout d'abord, nous vous demandons de vérifier vos pourriels. Et si vous ne trouvez toujours pas cette demande de vote, eh bien, parlez à votre département informatique pour voir quelles sont les adresses qui sont utilisées par e-ballot. Et si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, vous pourrez envoyer un email à notre équipe de soutien international. Et même processus, si vous avez besoin de changer votre vote mais que vous n'arrivez pas à trouver l'email d'e-ballot avec le lien, eh bien, utilisez les premières étapes. Sinon, vous pouvez envoyer une requête ou alors envoyer un email à l'équipe de soutien. Alors, je vais faire une pause un instant et écouter vos questions, s'il y en a. Carla au micro. Daniel, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions dans le chat. J'ai mis le lien vers la page sur l'amendement mondial et vers la page sur tout ce qui est relatif aux questions pour le vote. Daniel au micro. Eh bien, merci. Donc, nous allons maintenant parler des seuils d'approbation. Donc, d'abord, qui peut voter pour quoi et comment est-ce qu'on arrive à approuver les différents amendements? Donc, pour les bureaux d'enregistrement, ce sont donc les bureaux d'enregistrement pertinents qui peuvent voter. Donc, il s'agit des bureaux d'enregistrement qui ont un contrat en vigueur par rapport au RA, il s'agit des opérateurs de registre, ou alors ceux qui donc sont définis par nos règles. Et enfin, pour les amendements à la spécification 13, les opérateurs de registre de marque pertinents pourront voter. Et donc, je vous rappelle, vous l'avez vu dans les diapositives précédentes, les opérateurs de registre de marque pourront voter sur deux choses, sur un seul bulletin, un amendement au RA et un amendement à la spécification 13. L'approbation, cela veut dire donc à la fois les parties que je viens de décrire et ICANORG. Donc, il y a des seuils spécifiques qui sont définis dans chacun des contrats qui doivent être atteints pour qu'on puisse arriver à une approbation. Alors, je vous rappelle que ces seuils, ces calculs sont tous basés sur le contrat de manière à s'assurer qu'il y a un réel soutien pour tout ce qu'on propose. Donc, pour les changements au contrat de base pour les opérateurs de registre, il faut que les opérateurs de registre dont les paiements à l'ICANN font 2/3 du total des honoraires payés, répondent par l'affirmative. Et il faut également l'approbation d'une majorité, donc de 50% des opérateurs au moment où l'approbation est obtenue. De même, des seuils similaires s'appliquent pour les RO de marque qui voteront sur les changements proposés pour la spécification 13. En ce qui concerne les bureaux d'enregistrement, donc pour les changements proposés au RAA, le vote doit atteindre le seuil défini dans le RAA, section 1.18.1, qui est en fait une réponse à l'affirmative pour les bureaux d'enregistrement, à savoir 90% du total des noms de domaine enregistrés sous gestion. Et donc, cela est fait pour s'assurer qu'il y a vraiment un soutien parmi un grand nombre des bureaux d'enregistrement. Donc, c'est un petit peu différent de l'approbation des cotisations. Ici, l'amendement global, c'est les domaines sous gestion. Il est basé sur les domaines sous gestion. Et ce que je souhaite souligner, c'est que nous avons besoin de davantage de bureaux d'enregistrement qui votent pour atteindre ce seuil de 90%. Donc, je souhaitais conclure avec quelques dates importantes que vous devriez tous retenir. Donc, je vous le disais, la période de vote commencera le 19 janvier, elle se terminera le 20 mars, donc venez voter. Aux environs de mars-avril, c'est à ce moment-là que nous ferons le calcul des votes et des résultats. Ils seront donc fournis à ICANN par VoteNet et nous vous partagerons les résultats finaux. Et ensuite, nous les partagerons avec le conseil d'administration pour qu'il puisse y réfléchir. Ensuite, aux environs de mai-juin, s'il y a approbation, l'ICANN enverra la note juridique aux opérateurs de registre de marque et aux bureaux d'enregistrement. Et aux environs de juillet-août 2023, s'il y a approbation, les amendements globaux entreront en vigueur 60 jours après la date de la note envoyée par l'ICANN. Alan, vous avez la main ? Alan, au micro. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Allez-y. Je voulais simplement vous demander de donner davantage de détails par rapport au seuil de vote des bureaux d'enregistrement et des opérateurs de registre. C'est un petit peu compliqué, donc j'aimerais en savoir un peu plus par rapport à ces seuils. Merci. Daniel au micro. Oui, bien sûr. Est-ce que vous posez une question sur les deux seuils, donc opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement ? Oui, il y a deux pages. Oui, donc pour les opérateurs de registre, tout ceci est défini dans le contrat de base des opérateurs de registre. Il faut donc que les opérateurs de registre qui payent à l'ICANN soient au total les deux tiers de tous les frais payés donc pour l'année civile de 2020. C'est ce que l'on va prendre en considération pour cette période de vote. Et donc, il faut que les opérateurs de registre qui ont payé jusqu'à ou plus des deux tiers de ces cotisations, il faut qu'ils votent oui à l'amendement. Donc, ça, c'est le premier seuil. Et en plus, il faut que les opérateurs de registre qui chacun ont un vote par accord de TLD, que ces personnes-là soient une majorité, donc plus de 50%. Donc en fait, il y a deux seuils séparés. Et ces deux seuils doivent être atteints pour qu'il y ait une approbation par les opérateurs de registre. Est-ce que cela répond à votre question? Donc, un facteur est basé sur le paiement des opérateurs de registre et le deuxième, c'est un membre, un vote. C'est ça le deuxième facteur? Daniel au micro. Oui, c'est ça. Alan au micro. Donc, je comprends. Donc, ça veut dire que les deux facteurs soient respectés en même temps. C'est ça? Daniel au micro. Oui, c'est ça. Merci.
Et donc, en ce qui concerne les bureaux d'enregistrement, du côté des bureaux d'enregistrement, il n'y a qu'un seul seuil et nous avons besoin que les bureaux d'enregistrement représentent 90% des noms de domaine sous gestion pour que l'amendement soit approuvé. Et ces 90%, ce seuil de 90%, a un calcul spécifique avec une pondération qui indique que les cinq familles les plus importantes, eh bien, leur pondération doit s'appliquer aux quatre principales familles de bureaux d'enregistrement. Cela réduit donc la pondération des bureaux d'enregistrement les plus importants. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, les cinq les plus importants représentent 55% des noms de domaines sous gestion. Cela représente donc 55% de ce seuil de 90% si on ne suivait pas les calculs, ces calculs. Mais si l'on suit les calculs, cela réduit le nombre de domaines sous gestion et cela changerait donc le nombre de noms de domaines pris en compte. Donc, cela permet donc de passer de 55% dans cet exemple à 33%. J'espère que cela vous a aidé. C'est assez complexe, en effet, dans le contrat d'accréditation des bureaux d'enregistrement, mais il y a des textes qui existent déjà et que nous avons donc rappelé. Carla Atkinson, Alan Tan. Oui, c'est assez complexe pour ces seuils, pour les bureaux d'enregistrement. Carla Atkinson, oui, en effet, cela prête à confusion, mais toutes ces informations sont donc directement prises du contrat d'accréditation et vous avez plus d'informations sur le bureau, sur le site web. Si vous avez des questions également, vous pouvez poser des questions. Vous avez un point de référence qui est le site web et le contrat d'accréditation du bureau d'enregistrement. Nous avons une question de Pam Little. Oui, Pam au micro. J'aimerais rebondir sur cet exemple qui a été donné par Daniel. Donc, les cinq les plus importants, les plus grands, et ça va être une information publique qui va être donnée, qui est considéré comme étant les cinq plus grandes familles de bureaux d'enregistrement, comment ça va se passer? Et si vous voulez revenir à la page 24, pour les registres, on parle des frais qui ont été payés dans l'année calendaire immédiatement précédente. Donc, là, on parle des registres. Si on reçoit une facture de l'ICANN au 31 décembre, mais que ces frais n'ont pas été payés avant l'année suivante, le début de l'année en janvier, eh bien, ce paiement ne va pas compter pour le montant total des frais payés. Est-ce que je comprends bien cela? Ça me pose un petit peu problème, parce que si on a une grosse facture qui tombe juste en fin d'année, qui n'a pas été payée, je ne sais pas. Oui, excellente question, Pam. Daniel au micro. Donc, vous avez raison. Nous voyons ce qui a été payé dans l'année calendaire immédiatement précédente. Donc, nous suivons de très près ces contrats qui existent déjà avec les registres. Et en ce qui concerne le vote des bureaux d'enregistrement et les cinq plus grandes familles de bureaux d'enregistrement, ce ne sont pas des informations qui seront publiques. Si vous voulez savoir quel est votre rang pour le vote, vous pouvez contacter les responsables de compte ou notre équipe, et nous pouvons vous fournir ces informations confidentiellement, mais ces informations ne sont pas publiques. Pam Little, merci Daniel. Oui, je crois qu'il faut réfléchir à cela, parce que je crois que ça devrait être publiquement disponible. C'est une question de crédibilité. pour calculer ces seuils. Je crois que c'est important que cela soit public, puisque ces seuils ont été calculés à la suite d'obtention de beaucoup d'informations. Carla Kenson, merci Pam. Donc je me rappelle pas qu'il y ait de recherche au niveau du RA sur ces informations et qu'elles soient publiques, ces informations. Il faut que je revoie dans le contrat ce qu'on peut publier ou pas. Donc nous allons voir si c'est possible de le faire. Nous allons effectuer quelques recherches. Il ne me semble pas que ce soit le cas, mais nous allons revenir vers vous et analyser cette situation. Et nous pourrons répondre à ces questions. Oui, nous allons revenir là-dessus. Tenez le micro. Carla, j'aimerais remercier Howard Lee qui a mis dans le chat la question si je ne reçois pas l'email au début du vote, que faire? Vous avez des informations donc dans le chat. Donc, c'est pas exactement la même chose que pour le vote annuel qui se déroule, mais il faut s'assurer que vous n'êtes pas sur la liste des adresses qui ne sont pas accessibles, des adresses e-mail. Vous pouvez aller sur le site web et obtenir plus d'informations. Vous pouvez également vous préparer avant le 19 pour vous assurer que vous receviez bien tous vos emails et que ça n'aille pas dans le fichier de spam de pourriel. Donc, je ne vois pas d'autres questions ou de main de lever. Très bien. Donc, ceci conclut les informations que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais remercier tout le monde d'avoir participé. Je sais qu'il est tard pour certains d'entre vous. Et merci à Owen d'être avec nous. Merci à Rick également. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les envoyer à notre équipe au soutien global. Et à partir de jeudi, vous allez donc pouvoir voter et nous allons faire des mises à jour sur le processus de vote. Nous allons vous parler également des seuils plus avant sur le site web. Donc, merci à toutes et à tous de votre participation et nous serons heureux de lancer cette période de vote. Merci à toutes et à tous. Merci et l'enregistrement est maintenant terminé.